Romains 6, verset 15, page 1272. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez ? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié. Alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
On a appris jeudi avec une certaine surprise que le prix Nobel de littérature était Bob Dylan pour 2016. Et je cite, pour avoir créé dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine de nouveaux modes d'expression poétique. Il est l'auteur de plusieurs chansons qui ont marqué l'histoire récente. Et une de ces chansons, alors en 1979, peut-être pas la plus connue, alors qu'il découvre la foi chrétienne, il va composer la chanson « Gotta serve somebody », « On doit servir quelqu'un ». Un extrait. Tu peux être policier, tu peux être un jeune turc, tu peux être à la tête d'une grande chaîne TV, tu peux être riche ou pauvre, tu peux être aveugle ou boiteux, tu peux être en train de vivre dans un autre pays sous un autre nom, mais tu vas servir quelqu'un. Oui, tu vas servir quelqu'un. Ça peut être le diable ou ça peut être le Seigneur, mais tu vas servir quelqu'un. Manière de dire que c'est inévitable, on va servir l'un ou l'autre. Alors, quelle a été la réaction face à cette musique ? Il y en a certains qui n'ont pas apprécié, comme John Lennon, qui dira que c'est tout simplement inacceptable et qui composera en réponse « Sers-toi toi-même ». « Sers-toi toi-même » où il met en dérision certaines affirmations de la Bible ou de la foi. Mais selon le texte qu'on vient de lire, Bob Dylan n'est pas complètement à côté, même pas à côté. On peut même se demander si ça a été une source d'inspiration pour ce qu'il a composé. L'apôtre Paul parle ici d'un esclavage au péché et d'un esclavage à Dieu. Et il affirme qu'on va servir l'un ou l'autre. Alors ça peut paraître choquant comme affirmation, et peut-être au départ vous n'êtes pas d'accord. Mais on va essayer de vérifier comment ça semble être le cas. Je pense que c'est le cas. La Bible affirme que c'est le cas. Le plan que je vous suggère, c'est la question dans les versets 15. On va essayer de comprendre pourquoi il utilise cette image. Où est-ce qu'il veut en venir ? On est tous esclaves. Et là, on va se demander si les termes sont un peu forts. Un esclavage qui mène à quoi ? Et en gros, l'affirmation de ce texte, c'est que si nous avons cru en Jésus, nous sommes devenus esclaves de la justice, et ça sous-entend une progression dans la sainteté qui mène à la vie éternelle. D'abord, la question, verset 15. Il faut comprendre la question de l'apôtre Paul pour comprendre pourquoi après il va avoir ce développement, cette illustration de l'esclavage, où il veut en venir. Après avoir parlé de la justification, la justification par la foi en Jésus, dans les chapitres 4 et 5, il arrive au chapitre 6, avec des objections qu'on pourrait soulever par rapport à ces affirmations. Alors qu'il vient parler au chapitre 5, verset 20, du fait que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, il vient naturellement avec l'objection qui peut venir à l'esprit des auditeurs, qu'il a probablement entendu de la part des uns ou des autres à d'autres moments où il a parlé de cette bonne nouvelle. Mais alors, est-ce que ça signifie, chapitre 6, verset 1, « Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ?» Autrement dit, est-ce que ce n'est pas une invitation à pécher ? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ben, pourquoi pas continuer dans la même lancée, alors ? Pourquoi se priver ? Et là, sans tarder, la réponse, c'est certainement pas. Et il développe la réponse, c'est ce que vous avez vu dimanche dernier. Et ici, c'est le même schéma. On retrouve une affirmation de l'apôtre Paul. Il a terminé la section précédente avec le fait que les chrétiens ne sont plus sous la loi, mais sous la grâce. Et la question qui vient naturellement dans la tête des auditeurs, c'est « Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ?» Et la réponse, d'accord, je suis tout seul, certainement pas, certainement pas, et il va développer. Mais que dire de la question ? Que dire de cette question qu'il pose ? J'imagine dans notre parcours à l'école, dans notre parcours scolaire, on a tous fait face à un instituteur qui n'appliquait pas beaucoup de règles ou qui ne sanctionnait pas beaucoup. J'imagine qu'on a tous fait face à des profs qui ont vu les débordements grandir dans leur classe. Et si vous niez tout en bloc, je ne vais pas vous croire quand même. Parce que je l'ai expérimenté en tant qu'instit de l'intérieur. De l'intérieur, j'ai vu à quoi ça ressemble. Quand les sanctions ne sont pas appliquées ou quand on a l'impression qu'on peut tout faire. Quand il n'y a pas de sanctions, on pense qu'on peut aller plus loin. Et la question qu'on se pose ici, c'est est-ce que ce n'est pas un peu pareil avec Dieu ? En fait, si on a l'impression que c'est la grâce de sa part, ben est-ce qu'on ne va pas aller plus loin dans nos débordements ? Est-ce qu'on ne va pas se laisser aller à faire n'importe quoi finalement ? Est-ce que c'est pareil avec Dieu ? Dieu nous fait le cadeau de nous déclarer justes. Vous imaginez le privilège d'être déclaré juste, vu à travers la justice de Christ, pour toutes nos fautes passées, présentes et futures, une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on va faire de ce cadeau-là ? Est-ce que ce n'est pas une invitation à se laisser aller ? Ben, finalement, c'est fait, une fois pour toutes. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas n'importe quoi ? Est-ce que ça serait l'occasion de se laisser aller à faire n'importe quoi ? Et l'apôtre Paul répond « Certainement pas ». Et on va voir pourquoi. Ça vaut la peine de s'arrêter sur la question qu'il soulève ici, les questions qu'il soulève dans ce chapitre 6. Remarquez que les questions qu'il soulève de la part des auditeurs, ce n'est pas « Quand est-ce que je saurai si j'ai fait assez de bonnes œuvres ?» Ce n'est pas ça qu'il soulève comme question. Ou alors « Quelles œuvres en particulier est-ce que je dois faire pour savoir que je suis justifié ? Que vis-à-vis de Dieu, je me sais pardonné ?» Ce ne sont pas ces questions-là qui se posent, les auditeurs. Précisément parce que ce n'est pas une bonne morale à appliquer. Le message qu'il annonce, c'est une bonne nouvelle, qu'il s'agit tout simplement de croire. Et son message, c'est bien un message de grâce qu'il suffit de recevoir. Si ce soir vous n'êtes pas sûr de là où vous vous situez, si vous n'êtes pas sûr du fait que vous êtes croyant ou non, ça serait intéressant de penser aux questions qui sont posées ici. Est-ce que vous vous êtes posé ce genre de questions ? Parce que si un message de grâce a été annoncé, on se posera assez naturellement la question de « Est-ce que ça veut dire que je pourrais faire n'importe quoi ?» On l'a dit, la réponse est certainement pas et va développer par la suite. Mais si on a bien entendu le message de grâce, si on a entendu une bonne nouvelle, pas une bonne morale à appliquer, mais une bonne nouvelle, ça c'est le genre de question qu'on va se poser. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme avant parce qu'on est justifié ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi parce qu'on a été pardonné ? Ça c'est le genre de question qu'on va se poser. Et si on ne se pose pas ces questions-là, on peut aussi se demander si en fait on n'a pas entendu un message plutôt qui nous parle d'une bonne morale à appliquer. Les questions ici, elles témoignent d'un message de grâce. Maintenant, si vous êtes dans la peau d'une personne qui croit, qui a cru ce message, et que vous êtes à vous dire, ben moi j'aimerais le partager avec d'autres, Si on entendait de la bouche de quelqu'un à qui on a parlé de cette bonne nouvelle, ces questions-là, on pourrait avoir envie de tout de suite étouffer la question en disant « Non, oh là là, oh là là !» Mais en fait, ça vaut la peine de réaliser ici que l'apôtre Paul, lui, doit soulever ces questions, précisément parce que les gens ont bien entendu la grâce, ils ont bien entendu que c'est une bonne nouvelle, que ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. Et donc, quand on l'entend de la bouche de quelqu'un qui découvre l'Évangile, ça ne devrait pas nous faire peur, nous inquiéter tout de suite. C'est vrai, la réponse, ça ne sera certainement pas. Mais la question, elle peut venir naturellement parce qu'on est saisi par quelque chose qui est de l'ordre précisément de la grâce. On passe ensuite au deuxième point. On est tous esclaves. Dans le bouclier Arverne, et là je vais faire appel à vos connaissances en BD, Astérix. Dans le bouclier Arverne, il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer en présence d'Abraha Coursix. Et c'est quoi? D'accord? Deuxième tentative? Oh, attendez! Alésia? C'est ça? Il n'y a personne ici qui sait! Oh, mais lisez des classiques quand même! Alésia! Alésia, pourquoi? Ben parce que c'est le rappel d'une défaite face à Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Alors maintenant, on sort d'Astérix pour entrer dans la réalité de la vraie histoire. Suite à la défaite, on estime qu'il y a à peu près 1 million de personnes qui ont été emmenées comme esclaves pour servir dans l'Empire romain, pour servir Rome. 1 million d'esclaves, c'est énorme. Et on estime à cette époque-là qu'il y avait un tiers de la population de l'Empire qui était esclave. Et donc on peut estimer que quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, il y avait certainement dans les auditeurs soit des esclaves ou d'anciens esclaves, et certainement des gens qui connaissaient des esclaves. Donc ce n'est pas une surprise qu'il utilise l'image d'un esclavage. Ce qui surprend par contre, c'est qu'il l'adresse à tous. Il dit que tous sont esclaves. Ça, c'est plus surprenant. Au verset 16, « Vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Nous sommes esclaves du maître à qui nous obéissons, soit esclaves du péché qui mène à la mort, soit esclaves de la justice qui mène à la vie, ou de l'obéissance plutôt qui mène à la justice. Qu'est-ce qu'il entend par esclave du péché? Déjà, on peut noter que c'est péché au singulier. Ce n'est pas péché au pluriel, comme si c'était une accumulation de fautes commises et qu'on en était esclave. Péché au singulier. Matthieu en a dit quelques mots tout à l'heure, mais si on retourne au début de cette lettre, on voit qu'au cœur, ou même la racine du mal en chacun d'entre nous, c'est le fait de ne pas reconnaître Dieu comme tel, de ne pas reconnaître Dieu dans sa vie, de ne pas le reconnaître comme l'auteur de notre existence, celui à qui on doit tout, et d'accorder cette place à autre chose que Dieu, des dieux de substitution. Et la conséquence naturelle, une fois qu'on fait cela, c'est que oui, il y aura toutes sortes de conséquences, toutes sortes de péchés au pluriel, mais le péché au départ, c'est le fait de ne pas accorder à Dieu la place qui lui revient. Et c'est là qu'il utilise le terme « esclave ». Et on a envie de dire, mais est-ce que ce n'est pas trop fort, ça? Est-ce que ce n'est pas trop fort comme langage, « esclave » ben, c'est intéressant déjà de constater qu'on le retrouve ailleurs. Le langage d'esclavage, on le retrouve ailleurs. Prenez une chanson d'amour, prenez des chansons d'amour. Combien d'entre elles parlent de cœur brisé, de chaîne, d'esclavage même? Pierre Bachelet qui chantait « Je suis tombé en esclavage » quand il pense à telle femme. Et on va prendre juste un exemple d'une chanson composée par Tony Bennett qu'il interprète en duo avec Amy Winehouse, qui est décédée maintenant. Mais elle dit, ou ils disent la chose suivante dans la chanson, « Mes jours sont devenus si solitaires parce que je pleure pour toi seulement, mon chéri. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas vu? Je suis à toi, corps et âme. » Et en profondeur, elle exprime ce qu'elle ressent, la souffrance qu'elle éprouve. Et elle dit ensuite, « Tu es en train de faire de ma vie un enfer. Tu sais que je suis à toi. Il suffit de me prendre. Je me rends volontiers à toi, corps et âme. » Vous entendez le langage là ? Livrer corps et âme, c'est le langage qu'utilise l'apôtre Paul. Mais ils vont même plus loin. Ils parlent d'enfer. Quand elle parle de la souffrance, d'un amour qui n'est pas réciproque, elle décrit ça comme un enfer. C'est des termes encore plus forts que ce que l'apôtre Paul utilise. Mais il y a bien cette idée d'esclavage. Quand on fait de quelqu'un une idole et qui finalement ne nous satisfait pas ou ne répond pas à nos attentes, c'est une souffrance équivalente à l'esclavage ou ici même à l'enfer. Et ce n'est pas seulement l'amour. On peut se livrer corps et âme à une carrière et voir toutes les conséquences d'un esclavage à sa carrière. On peut se livrer corps et âme à l'approbation des autres, être tellement désireux de plaire aux autres, de séduire ou tout simplement d'avoir une approbation qu'on en souffre quand on ne l'a pas. On peut même avoir plusieurs maîtres successifs. Mais l'affirmation de l'apôtre Paul, c'est qu'on se livre tous à d'autres maîtres. Au verset 17, il décrit cette fois-ci un autre esclavage. « Mais Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. » Et là, il fait référence à la conversion des personnes à Rome qui sont devenues chrétiens, comme une réorientation, comme un changement d'esclavage. Pourquoi est-ce qu'il parle en termes d'obéissance ici ? Ben, l'obéissance, ça dit bien le fait que justement, il va y avoir des implications, il va y avoir des changements dans le comportement. Pourquoi est-ce qu'il parle d'un modèle d'enseignement ? Ben, parce que ça va nous modeler, parce que ça va laisser des traces, il y aura un changement qui sera perceptible dans notre manière de vivre. Pourquoi est-ce qu'il parle aussi de tout cœur ? Et bien parce que c'est un engagement total qui nécessite une décision volontaire. Pourquoi est-ce qu'il parle dans ces termes-là ? Et bien c'est tout simplement pour dire la réorientation fondamentale, radicale, qui se vit quand on devient chrétien. Et qui doit être remercié ? À qui est-ce qu'on doit cette réorientation ? Ben il le dit ici, Dieu soit remercié. Et si ce n'était pas assez clair, on nous dit on nous parle d'un modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Autrement dit, là encore, ça ne dit pas quelque chose que nous avons été en mesure de faire, mais quelque chose qui a été fait pour nous par Dieu lui-même. Une réorientation dont il est l'auteur. Il parle de cette conversion, de cette réorientation comme d'une libération. Aussi, au verset 18, « Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Et là, en parlant de liberté, il faut reconnaître que l'apôtre Paul, il jette un pavé dans la mare quand même. C'est un pavé dans la mare. Comment est-ce qu'on définit en société la liberté ? En société, on décrit la liberté en termes de pouvoir librement et sans contrainte choisir ce qu'on a envie de vivre, de faire, de dire. Et dans notre société, la perception de devoir obéir à un certain enseignement, suivre une certaine idée de la justice, de suivre un modèle qu'est Jésus, mais ça paraît contraignant, ça peut étouffer la liberté. Qui a raison ? Est-ce que c'est notre perception en société ou est-ce que c'est l'apôtre Paul ici ? On va juste prendre un petit exemple, mais vous avez certainement entendu parler des paroles du candidat pour l'élection américaine, Donald Trump, ses propos sur les femmes. Est-ce qu'il a été libre dans le fait de pouvoir dire ce qu'il avait envie de dire au sujet des femmes ? Est-ce qu'il est libre dans le fait de voir les femmes comme des objets ? Est-ce qu'il est libre dans ses actions de pouvoir faire ce qu'il veut ? Ou est-ce que la liberté, c'est précisément de pouvoir contrôler ses passions, ses pulsions, de contrôler son langage, de maîtriser sa langue et de ne pas faire de tels actes. C'est quoi la liberté ? Et à l'inverse d'une perception générale de la liberté, l'apôtre Paul affirme qu'elle est là, la liberté. Alors c'est vrai, il veut nuancer le langage qu'il utilise en parlant d'esclavage à la justice. On pourrait avoir l'impression que c'est tellement contraignant, tellement étouffant, oppressant, qu'on est dans la crainte de cet esclavage. Et au verset 19, il nuance en disant qu'il parle de manière humaine, comme pour relativiser le langage, parce qu'au fond, il y a un désir qui se trouve dans la réorientation. Hier, il y a un témoignage d'un joueur de rugby, Pascal Papé, qui est sorti. C'est un joueur qui joue au Stade de France et aussi pour l'équipe de France de rugby. Et dans ce témoignage de vie, il parle de son enfance difficile. Abandonné à l'âge de 4 mois, sa mère internée, il est confié à la DAS. Il sera accueilli dans une famille d'accueil, une famille pour laquelle il est profondément reconnaissant. Mais il dit ensuite qu'il est passé par des moments sombres, des moments de dépression, de désespoir, et même encore aujourd'hui, il y a des traces de cela. Et quand il essaie d'évoquer les raisons de ce désespoir, de cette angoisse, il renvoie cela au fait que régulièrement, dans le suivi dont il bénéficiait avec des psychologues et autres, on lui disait « c'est pas ta vraie famille, c'est pas certain que tu restes là, peut-être que ta mère va revenir ». Et il dit avoir vécu cette angoisse de ne pas savoir ce que l'avenir lui réservait. Cette crainte, cette incertitude. Est-ce que je vais appartenir à cette famille ou pas? Et alors qu'il pense à toutes ces mises en garde, il dit la chose suivante. Ma mère, il pense à un jour, ma mère m'a dit, si un jour ils viennent te reprendre, sa mère d'accueil donc, si un jour ils viennent te reprendre, on fugue tous les deux. Je me suis raccroché à cette phrase toute mon enfance, toutes ces nuits où j'étais pas bien, en sueur, les dents qui claquent. Personne ne peut imaginer le bien qu'a pu me faire cette phrase dans la souffrance psychologique dans laquelle j'étais. Cette phrase de sa mère adoptive, c'est ce qui l'a profondément rassuré. Et bien, la libération dont il est question ici, la nouvelle appartenance dont il est question ici, elle doit avoir cette même résonance. Cette promesse que Dieu donne, elle doit avoir ce même effet chez les croyants. Et d'ailleurs, c'est en termes d'adoption que l'apôtre Paul y parlera, au chapitre 8. Il parlera en termes d'adoption. Cette nouvelle appartenance, c'est quelque chose que le chrétien, au fond de lui-même, souhaitera. Il voudra vivre pour la justice. Il voudra plaire à celui qui l'a libéré. Un peu comme si on disait à ce joueur de rugby quand il était jeune, tu es libre alors qu'il a cette angoisse, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre d'aller où tu veux, de partir où tu veux, qu'est-ce que tu veux? Mais il aurait dit, mais je veux appartenir à cette famille, je veux avoir ce nom pour mon nom, je veux faire partie de cette famille. Eh bien, c'est pareil avec le croyant. Le croyant qui a expérimenté le fait d'être déclaré juste, le fait d'être pardonné, il a envie de plaire à Christ, il a envie de lui appartenir. Sa manière de voir est réorientée. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de répondre oui à la question? Si on vous dit, est-ce que ça veut dire que tu vas vivre n'importe comment après? Tu vas vivre comme avant, sans changement. Tu deviens chrétien par la grâce et tu vis comme tu veux, n'importe comment, avec tes anciennes manières de voir, tes anciennes manières de vivre. Si on répond oui, c'est qu'on n'a pas vraiment compris ce que Christ a fait. On n'a pas vraiment compris la beauté de cette promesse. On n'a pas vraiment compris sa grâce. Par contre, si on l'a compris, on ne va pas voir cet esclavage à la justice comme une détention, mais comme une libération. On ne va pas voir comme une contrainte, mais précisément comme une aspiration, quelque chose qu'on a envie de vivre. Et on termine avec un esclavage qui mène à quoi? Troisième point, versets 19 à 23. Là, l'apôtre Paul veut voir où ça mène tout ça, où est-ce qu'il mène ces deux esclavages. Je parlais au départ de l'image d'un instituteur qui ne se faisait pas respecter. Mais imaginez maintenant un instituteur qui arrive à faire ce bon mélange de justice et de grâce. Quelqu'un qui inspire parce qu'il arrive à parler avec vérité, mais avec amour. Et quelqu'un qui, pour sa classe, a bien montré que dans son caractère, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Est-ce que vous imaginez les mêmes débordements de classe ? Moi, j'ai le souvenir d'un instituteur qui sans l'incarner parfaitement, mais m'a donné envie de lui plaire. Et dans les moments de liberté, dans les moments où on pouvait faire ce qu'on voulait, on avait envie de faire quelque chose qui plaisait, qui était bien, qui était bon. Et bien, c'est pareil ici avec où ça mène. Cette réorientation, elle va nous mener à de nouveaux désirs. Verset 19, « De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » L'affirmation d'une réorientation complète. Et il rappelle à la fois leurs souvenirs, leur manière de vivre avant pour eux-mêmes et allant dans une injustice toujours plus grande. Et il contraste en disant « Mais si vous avez fait cela en livrant vos membres, toute votre vie à cela, est-ce que vous n'allez pas livrer, à l'inverse, une fois que vous avez été libéré, vos membres pour la justice, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. » Une trajectoire qui décrit bien cette réorientation, c'est celle d'un John Newton, qui est capitaine de navire qui transporte des esclaves vers le Nouveau Monde, réalise la gravité de ce qu'il fait, saisit la grâce justement, saisit le pardon qui lui est fait et écrit ce cantique « Grâce étonnante, quelle douceur en ce son, qui vint sauver un misérable tel que moi. J'étais perdu, mais elle m'a trouvé, aveugle, mais maintenant je vois. La grâce a pris mon cœur à trembler et vint me calmer de mes frayeurs, comme elle m'a paru précieuse à l'heure où elle me donna de croire. » Il a participé au trafic d'esclaves. C'est à ça qu'il se donnait entièrement. Et bien par la suite, il va se livrer au ministère. Il va se consacrer à une vie de proclamation de cette parole qui l'a libéré. Et dans cette expression, mettez vos membres au service de la justice. Comment est-ce que ça va s'appliquer pour vous? Ça va peut-être être une réflexion comme lui, sur la possibilité d'un ministère, de se consacrer dans sa vocation à proclamer cette parole. Mais à coup sûr, il y aura, quelle que soit sa vocation, quelles que soient nos journées, nos vies, on va livrer nos membres, si on a saisi la libération qui nous est accordée, on va livrer nos membres à lui, au service de la justice. Et ça aura des répercussions concrètement demain. Demain, quand vous serez à discuter ou un groupe sera à discuter de votre responsable, livrer ses membres au service de la justice, ça sera de réagir différemment que naturellement face à une possibilité de critiquer son patron. Ça se verra aussi dans les moments d'injustice, quand vous êtes devant le choix de devoir faire ou ne pas faire une chose, ou devant un étudiant qui semble paumé et qu'on n'a pas envie on n'a pas envie de perdre du temps avec lui, et pourtant livrer ses membres au service de la justice, ça sera précisément d'être prêt à consacrer du temps, de l'aider. À quoi est-ce que ça va ressembler pour vous? Comme pour encourager ce don de toute notre personne, un nouveau maître, l'apôtre Paul veut contraster les fruits et il pose la question: quels fruits portiez-vous? Et la réponse, c'est des fruits qui donnaient honte. Et là, ce serait mal comprendre que de dire que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, est incapable de bien. Ce n'est pas ce qu'il a dit au début de la lettre. Tout être humain peut être auteur du bien. Mais en utilisant le fruit, c'est une occasion de réfléchir à la raison pour laquelle on fait quelque chose de bien. Quel fruit? Pour qui? Pour qui est-ce que je fais ça? On peut agir pour le bien des autres tout au fond, en ayant au fond le désir de le faire pour soi. en étant focalisé sur soi et le bien que l'on fait, plutôt que d'être focalisé sur Dieu et sur le fait que c'est lui l'auteur de l'existence. Et selon cette trajectoire, l'apôtre Paul affirme que si on continue sur cette voie-là, c'est la mort dans tous les sens du terme. À l'inverse, libéré d'une vie centrée sur soi, on aura pour fruit quoi ? La justice, quelque chose de juste, de droit. Et l'aboutissement en vue, c'est la vie éternelle. Et dans cette progression, dans ce fruit, il y aura aussi une progression dans la sainteté. Le fait de ressembler de plus en plus à Dieu, dans son caractère, dans sa justice. Et là encore, ça ne signifie pas que les chrétiens sont exemptés de fautes, qu'ils ne commettent pas des péchés. Si vous êtes venus ici, si vous nous connaissez un peu, vous savez que, un tout petit peu, vous savez qu'on est des pécheurs. Mais c'est une trajectoire, et une trajectoire qui est entamée. Et là encore, John Newton l'exprime bien. Il dit la chose suivante, « Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je serais. Je ne suis pas ce que j'étais. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Une certaine humilité dans la reconnaissance qu'on n'est pas ce qu'on devrait être. Mais il y a une trajectoire qui est entamée et qui mènera, si on a bien compris à qui on appartient et ce qu'il a fait pour nous, qui mènera à des changements, qui mènera à une progression dans la sainteté. Comment est-ce que vous allez vivre ces prochains jours, ces prochaines heures, en étant conscient que vous avez été libéré de l'esclavage au péché pour être esclave de la justice? Dans une formule ramassée, il termine en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'on mérite pour notre péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.